France Musique.
Merci Florian Royer. À samedi prochain avec Louis Armstrong. Bonsoir. Chaque dimanche, cet été, nous vous proposons à 19h une nouvelle diffusion de nos cabarets 42e rue. Une heure en concert avec les artistes de la comédie musicale en France. C'était le 13 septembre dernier. Nous recevions l'orchestre au complet des Frivolités parisiennes.
The next stop is 42nd Street.
Come here. Venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel bonheur de retrouver ce studio, le carreau du temple, rempli de vous, chers auditeurs, et d'artistes. Ravi de vous retrouver ici en direct. Après le festival France Musique organisé cet été, notre chaîne, vous le savez, reste aux côtés des artistes de la musique pour les soutenir durant cette période incongrue, compliquée. Et nous sommes tellement heureux de reprendre nos concerts mensuels en direct avec les artistes et musiciens qui font la comédie musicale en France, mais dans des règles sanitaires strictes, hein, qui font que nous avons laissé vacant aujourd'hui un siège sur deux dans la salle. Alors pour ouvrir cette saison, il nous fallait un orchestre au complet, une troupe au complet, un spectacle qui tourne actuellement en France et démontre la volonté du spectacle de reprendre une vie normale. Je vous propose d'accueillir l'orchestre des Frivolités parisiennes de Benjamin Elarbi et Mathieu Frano et leur production d'une opérette qu'on avait découvert il y a un an et qui repart donc en tournée. Une opérette créée en 1936 par Paul Mistraki, écrite par le cinéaste Henri Decoin avec des paroles signées Albert Ornez. Son titre, Normandie. Que le spectacle recommence. De Normandie, cette opérette créée en 1936 par Paul Mistraki Albert Ornaz et Henri Decoing. Alors, c'est une opérette typique des années folk Normandie. Elle mélange des styles musicaux, le jazz, la valse, le swing, les rythmes latino, le tango et puis des arias proches de l'opéra comique. On est sur un paquebot qui vient juste d'être lancé hein, en mai 1935, un transatlantique qui relie le Havre à New York avec à son bord des gens riches et notamment trois milliardaires et leurs filles. Comme dans toute bonne pièce de vaudeville et de boulevard, ces jeunes filles sont destinées par leur père à de riches maris dont elles ne veulent pas, car chacune s'est entichée d'un jeune prolétaire, si je peux dire ça comme ça, un prof de natation, un petit télégraphiste ou un pilote d'ascenseur, en fait un liftier d'ascenseur. Au début de cette histoire, on surprend deux filles avec leurs amoureux se draguer gentiment et se faire à la fin de furtifs baisers. Voici Marion Tassou et Caroline Michel, Margaret, Barbara. Et puis, c'est Guillaume Beaujolais qui incarne le petit télégraphiste et Pierre Babola, le prof de natation.
Je voudrais vous poser une petite question.
Je suis là pour ça, mademoiselle.
Je crois que je vais avoir besoin de vos fonctions.
Pour vous, je ferai du zèle.
Excusez-nous tout d'abord vraiment de notre audace.
Sommes ici pour vous servir avant tout.
C'est impossible entre nous que nous deux nous se passe.
Ça vient de tout plaisir et pour nous.
Nous sommes effrontés sans doute.
Allez-y, on vous écoute, nous n'avons pas de secret pour vous.
Comment fait-on pour être capable de nager le Gaulle comme un vrai triton? Comment fait-on partir à câble pour une détente?
Vous faites des progrès immenses.
Vraiment, j'en suis contente.
Les câbles pour Boston payent le tarif réduit.
Merci pour ma détente. Vous êtes vraiment très galant lorsque l'on vous dérange.
J'espère que c'est le genre de la maison.
Que voulez-vous que nous deux accordions en échange?
Je voudrais bien poser aussi une question.
À votre tour de répondre.
Ne cherchez pas à nous confondre.
Mademoiselle, pour exprimer ce que nous ressentons.
Comment dit-on, de façon nouvelle, que notre cœur est en perdition.
Soyez-vous je finale, ensuite nous.
Mais quand ce sont les deux plus belles, comment fait-on pour rester dans le temps?
Est-ce que l'on est moins banal, oser c'est un du pardon.
Mesdemoiselles, comment fait-on? Expliquez-nous comment fait-on?
Aussi bien nous vous en notre.
Caroline Michel, Guillaume Beaujolais, Pierre Babola et l'orchestre des 17 musiciens des Frivolités parisiennes en direct du Carreau du Temple pour ce premier cabaret, 42e jeu de la saison. C'était Comment fait-on ? Un spectacle mis en scène par Christophe Mirambeau. Bonjour Christophe.
Bonjour Laurent.
Vous êtes le metteur en scène, mais surtout vous êtes un, on peut dire, archéologue, musicologue des musiques françaises du début du siècle et même de la fin du 19e siècle. On vous doit tout un livre autour de André Messager, un des pères de la musique légère en France. On vous doit des productions comme Une merveille de Cole Porter que vous avez déniché, qu'il avait créé à Paris, ou Yes de Maurice Yvain. Comment on pourrait situer cette œuvre normale Normandie dans l'histoire de l'opérette. On est vraiment dans l'opérette jazzy des années 30.
Oui, on est vraiment dans l'opérette swing et on est dans la queue de la comète de la grande période du théâtre musical d'entre-deux-guerres. Où on est dans l'apport de la culture américaine mixée, mélangée, assimilée par la culture française. C'est pour ça que dans Normandie, il y a à la fois des airs que l'on pourrait parfois sentir avec des humeurs Arthur Honegger, et puis des chansons qu'on pourrait avoir chantées à l'ABC, et puis des choses très swing qui peuvent venir de Broadway. Et tout ça est très très mélangé, et c'est justement cette bâtardise noble qui fait tout l'intérêt de cet ouvrage.
Des œuvres d'ailleurs que des contemporains comme Irving Berlin ou George Gershwin viennent voir à Paris. On est d'accord, à cette époque-là, ils s'inspirent aussi de ce qu'ils voient à Paris ?
Absolument. On vient à Paris, surtout dans les années 20, finalement, parce que la première grande comédie musicale américaine, c'est Mississippi, en France,
Showboat
à Broadway, et c'est simplement inspiré par les spectacles de comédie musicale qu'il y a à Paris. Tout comme Nono Nanette est inspiré des choses très très jazz band que l'on a à Paris dans les théâtres privés, au Bouffe Parisien, aux Nouveautés, et ces théâtres qui ont tous un orchestre et qui font du théâtre musical à haute dose parce que c'est le genre qui marche, c'est le genre qui plaît.
Alors, dans votre dossier de presse, dans votre présentation, vous expliquez qu'en fait, celui qui a un peu mis en forme cette opérette à la française, c'est Albert Wilmette, et que Normandie, c'est vraiment un exemple type. C'était quoi la forme de l'opérette à la française, alors, du coup, dans ces années-là? 11 tableaux, 12 tableaux, enfin, il y avait une structure très, très, très précise.
C'est déjà une structure dans l'esprit. C'est Wilmette, au sortir de la Grande Guerre, à la préscience, que le monde du théâtre musical doit changer, doit se renouveler, parce que quelques années avant la Grande Guerre, ce monde-là était en train de s'étioler, parce que finalement on copiait les recettes d'un succès après un autre succès.
L'opérette viennoise.
L'opérette viennoise, mais même l'opérette française, où on ne renouvelait pas vraiment les modèles. Et Wilmette a eu l'intuition de faire rentrer la musique très populaire dans la musique savante, c'est-à-dire que les chansons de café-concert que l'on entendait pouvaient rentrer tout d'un coup à l'opérette avec orchestre sur des rythmes, on disait alors américains, le foxtrot, puis plus tard le chimie et ainsi de suite. Et il a eu l'idée de travailler à l'américaine, c'est-à-dire de faire des lyrics. Habituellement, on faisait des couplets, c'est-à-dire que le coupletier écrivait ses paroles et puis il les donnait à son compositeur qui s'en débrouillait. Là, on travaille à l'américaine et à l'anglaise. Le compositeur et le lyriciste travaillent ensemble. Le lyriciste taille ses paroles sur les carrures musicales et les phrases musicales du compositeur, sur les mélodies. Et ça n'est plus le compositeur qui s'adapte aux paroles. Donc c'est une façon toute nouvelle de faire, et il a la préscience commerciale de ce que ça pourrait devenir, parce que tout d'un coup les chansons font 2 minutes 30, maximum 3 minutes, c'est-à-dire la durée d'une phase de 78 tours. Et on y insère beaucoup, beaucoup de danse que l'on peut pratiquer dans les dancings à Paris et dans les grands cafés qui ont des orchestres et que tout le monde peut avoir. Et puis dès 1920, la première chose insensée dans le monde de l'opérette, de la comédie musicale, c'est que le présent, le réel, fait son apparition. C'est-à-dire, on a toujours des histoires avec des boulangères qui rêvent d'être princesses et qui le deviennent à la fin. Et là, tout à coup, on a Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde sur scène et qui ont des problèmes raisonnablement et généralement de fesses.
Et de milliardaires, souvent.
Oui, et que l'on peut croiser dans la rue, dans des mobiliers qu'on peut acheter chez Conforama.
Alors justement, à l'époque, je ne sais pas, ou Galerie Barbès peut-être, je ne sais pas. 1936, voilà, pour le coup, l'opérette se déroule sur un paquebot qui venait d'être lancé un an plus tôt. On va continuer à découvrir cette opérette composée par Paul Misraki, et nous serons tout à l'heure avec son fils qui est dans la salle aujourd'hui, Christophe Misraki. On continue de découvrir, Christophe Mirambeau, cette partition que vous avez reconstituée. On verra en quoi ça consiste tout à l'heure. Voici un grand numéro, un grand solo. Alors sur le bateau, il y a des courtisanes aussi, il y a des filles de milliardaires, il y a des prolétaires, comme je disais. Et je dirais, moi, je ne sais pas si Sarah Lazerge, qui incarne Catherine, est d'accord, mais voilà, elle n'est pas prostituée, mais disons qu'elle aime les hommes riches. Et elle sait. Alors, elle ne s'appelle pas courtisane. D'ailleurs, c'est le titre de la chanson. Non, il faut plutôt l'appeler une femme d'affaires. «
suis pas une courtisane, je ne suis pas une mercenaire, je ne suis ni poule ni faisane, je suis une femme d'affaires. Sur les mers, sur les continents, il n'y a qu'une loi donnant, donnant. La chose est claire, c'est les affaires. Moi j'ai des charmes et des appâts, je les sous l'eau, je les vends. La chose est claire, c'est les affaires. Je ne mélange pas évidemment les sentiments et les sentiments, c'est nécessaire. Une affaire et que l'affaire. Je ne gagne pas ma vie ensemble à réciter des patenantes et mon commerce avec les hommes est un commerce comme un autre.
Une femme d'affaires qui a caché son petit accent titi parisien pour cette chanson, mais qu'on découvrira complètement à la fin de l'histoire. C'était Sarah Lazerge avec l'orchestre au complet des 17 musiciens des frivolités parisiennes.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Alors maintenant, on va rencontrer les parents. Je vous ai parlé de milliardaires américains. Les voici. Alors, il n'y a que les pères qui sont sur le bateau. Trois Américains richissimes boursicoteurs. Et les jeunes prolétaires français, si je peux continuer à les appeler comme ça, n'auront aucun mal à leur faire croire au milieu de l'Atlantique à un nouveau krach boursier, à leur faillite, afin d'essayer, évidemment, de conquérir leurs filles. On va les découvrir, ces trois milliardaires, le temps qu'on puisse installer les micros. Ils sont incarnés par Denis Mignien, Jeff Broussou et Richard Delestre.
Chers auditeurs, je suis heureux d'avoir l'honneur de pouvoir vous parler d'ici.
Moi aussi, moi aussi,
moi aussi.
Dans la finance, je suis un roi.
J'ai de l'argent gros comme moi.
J'ai 300 tasses les dollars. Des milliers, des millions,
des milliards.
Avec
toutes ces sommes, nous sommes en somme des hommes d'argent.
Ça nous ensorcelle l'argent.
Et mademoiselle,
l'argent.
Même la vaisselle,
l'argent.
15 coffres d'or sont nos escarcelles.
Je possède une affaire en or.
J'ai un caractère
en or.
Quand moi j'ai mille fois mieux encore.
allons vous l'expliquer. Nous vendons chaque fois que ça monte, et nous rachetons quand ça descend. Voilà comment, en fin de compte, nous gagnons des milliers de cents. Nous n'avons jamais eu de mécompte, ni jamais de ces crashs à l'essence.
Lorsque l'on n'est pas un jobard, un capital, c'est de l'or en barre.
C'est de l'or en barre, c'est de l'or en barre, c'est de l'or embarrassant.
Mais quand on veut un argent fou, il suffit de faire comme nous, nos principes, nous donnons des sous.
Vous donnons des sous, vous donnons des sous, vous donnons des sous.
Et comme on est complice, d'oblice, s'emplisse, s'emplisse, s'emplisse tout le temps. Nous faisons du 30%
et même du
40%
et même du
60%. Notre position est intéressante.
Nous avons plus de 1000,
plus de 100,
des automobiles,
800. Et ce qu'il y a de plus n'est pas tant. Je ne me fais pas de 1000, pourtant.
Nous sommes sans peur et sans reproche. Rien dans les mains, tout dans les poches.
Quelle est notre façon d'agir? Nous avons l'honneur de vous le dire.
Nous vendons chaque fois que ça monte, et nous rachetons les salons.
Jamais de ces crashs à l'essence.
Nous rendons lorsque ça monte, lorsque ça monte,
et nous rachetons, et nous rachetons quand ça descend.
Il s'appelle Denis Magnin, Jeff Broussou et Richard Delestre, le trio des milliardaires. Extrait de Normandie, cette opérette que vous avez fait revivre. Bonjour Benjamin Ella.
Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu Frano.
Bonjour.
Alors, on est particulièrement ravis de vous accueillir. Pourquoi ? Parce que vous, en fait, vous auriez dû venir en avril avec un spectacle qui s'appelait Call in Paris. Et puis voilà, on sait ce qui s'est passé. Le spectacle aura néanmoins lieu en avril. Et alors, je suis carrément impressionné. Vous multipliez les projets parce qu'on parle de la difficulté de remettre en route les spectacles vivants. Vous venez de faire paraître chez Naxos l'enregistrement avec Laurent Naouri de Don César, de Bazan, de Juge Massenet. Vous serez cette saison dans la fosse du Théâtre des Champs-Élysées, si je ne me trompe pas, avec Un élixir d'amour de Donizetti, et dans celle de l'Opéra Comique, pour Une belle Hélène avec Marie-Nicole Lemieux et Michel Faux. L'Opéra Comique, c'est un rêve qui se réalise, Benjamin Elarbi?
L'Opéra Comique, c'est une maison dans laquelle maintenant, depuis plusieurs années, on a l'habitude de jouer. Et vu que l'idée des frivolités, c'était de recréer cet orchestre de l'Opéra Comique, automatiquement, on est heureux d'être à la salle Favart.
Comment vous avez réussi à travailler et à maintenir tous ces projets malgré ces 3 mois de confinement? Et puis cet été un peu compliqué, Mathieu Frano.
À la base, cette saison devait déjà être assez importante. Et avec tout le report des projets, elle a été encore plus importante. Et voilà, il faut que la vie reprenne et on espère que le public sera au rendez-vous.
Comment se passe la reprise? Il y a des annulations? À l'Opéra de Vichy, par exemple, il y a des spectacles qui n'auront pas lieu. Comment ça se passe? Vous travaillez un peu au jour le jour?
Alors pour nous, voilà, on a une nouvelle manière de travailler, comme toutes les compagnies, je pense, c'est qu'on vit au jour le jour. Mais pour le moment, Normandie, la tournée est quasiment à 90% maintenue. Donc on est très très heureux et on félicite toutes les équipes qui permettent que ce spectacle puisse se donner.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette opérette Normandie? Christophe Mirambeau est à côté de vous. Qu'est-ce qui vous a plu, Benjamin et Mathieu, quand Christophe vous a peut-être... C'est peut-être lui qui vous a proposé cette œuvre.
Tout à fait. En fait, ce qui nous a plu, c'est que, encore une fois, cette opérette représente tout ce qu'on défend et toute notre démarche. La démarche défendue par les frivolités parisiennes, ça veut dire une exigence orchestrale, musicale, théâtrale. Et puis surtout, c'est drôle. C'est une super croisière.
Vous connaissiez?
On connaissait quelques tubes, évidemment. Oui, c'est vrai que Christophe nous a vanté les mérites de cette pièce. Et c'est aussi cette sorte de mélange de musique classique, opéra comique, avec le jazz qu'on adore aborder, qu'on avait abordé au tout début dans Paris Chérie, une revue qu'on avait faite il y a quelques années. Et du coup, c'est vrai qu'on a... On a ce goût pour aussi ce répertoire, en plus de l'opéra comique comme le Massenet qu'on vient d'enregistrer.
Mais ce qui est très impressionnant, vous faites penser un petit peu aux Brigands il y a 20 ans en fait. Quand vous prenez un projet, la compagnie des Brigands, je veux dire, quand vous prenez un projet, vous le prenez complètement et vous en faites un spectacle total avec des chorégraphies. Ça c'était important par exemple, de recréer les danses de l'époque.
C'est très important. En tout cas, nous, ce répertoire et ce genre, on s'y est attaché parce qu'on aime le spectacle total en fait. On aime réunir tous ces corps de métier. Et donc voilà, c'est très intéressant. Et puis avec Christophe qui nous guide un peu voilà sur ce qui se faisait à l'époque. Et aussi, on est dans une modernité quand même. On vit au 21e siècle, donc on évite de refaire voilà exactement ce qui s'est fait à l'époque. On s'adapte.
Alors, la partition n'a pas été conservée intégralement, donc il a fallu la restaurer. Ça consiste en quoi ? En quelques mots, Christophe Mirambeau ?
Alors, en fait, la partition était pour moi réputée perdue. Et un jour, un concours de circonstances me fait rencontrer avec bonheur Christophe Misraki. La première phrase que je lui dis, alors qu'on ne se connaissait pas, je lui dis « Et la partition de Normandie ?» Et il me répond « J'ai le manuscrit chez moi. » Et évidemment, j'ai sauté dessus. Et puis donc, on a fait...
Anecdote France Musique.
Sur la partition.
Christophe Misraki est dans la salle, il pourra nous raconter.
Du coup, il a fallu refaire un matériel d'orchestre à neuf et réadapter, parce que par exemple, c'est écrit comme pour le cinéma des années 30, avec trois violons, pas d'alto, et il fallait réadapter de manière moderne, parce qu'effectivement, on ne fait pas dans la poussière et dans l'ancien, on retravaille les choses, pour être dans l'esprit, dans la note, et dans la couleur de l'original.
Et peut-être que vous avez alors, dans ce cas-là, écouté... quelques enregistrements, il y en a très peu de l'époque. Je vous propose d'écouter celle qui a créé le rôle de Barbara, la jeune fille de milliardaire amoureuse du petit télégraphiste du paquebot. C'était une comédienne au cinéma et aussi d'opérette qui s'appelait Lynn Clover. Et elle interprète une chanson, on va dire quoi, graveleuse, puisque en gros...
Et mythique de Normandie.
Puisque en gros, elle raconte qu'elle aimerait découvrir l'amour.
Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du badinage, je me sens le cœur bien lourd. Je voudrais qu'on me mette à la page, j'ai besoin de beaucoup de précision. J'ai eu tort d'être aussi sage, car je manque d'apprentissage et de préparation. Heureusement, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard. Je n'ai pas de fausse honte. Et même si cela me trouble, je mettrai les bouchées doubles. Je voudrais en savoir davantage, discerner le comment, le pourquoi. Et pour que je m'en pénètre ainsi qu'il se doit, je veux tout connaître sur le bout du doigt. Il est temps que sans détour, je m'exerce à mon tour. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais apprendre l'amour. Je vous l'avoue sur ma conscience, je ne connais rien des passions. L'amour, hélas, c'est une science qu'on néglige dans les pensions. Afin de percer le mystère, c'est fou ce que j'ai pu ruser. J'ai scruté tout le dictionnaire et toutes les statues des musées. Mais aujourd'hui, il faut que j'ose connaître enfin la vérité. Car si je n'ai pas tenté la chose m'a bien souvent tenté. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du badinage, je me sens le cœur bien lourd. Je voudrais qu'on me mette à la page, j'ai besoin de beaucoup de précision. J'ai eu tort d'être aussi sage, car je manque d'apprentissage et de préparation. Heureusement, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard. Je n'ai pas de fausse honte, et même si cela me trouble, je mettrai les bouchées doubles. Je voudrais en savoir davantage, discerner le comment, le pourquoi, et pourquoi je m'en pénètre ainsi qu'il se doit. Je veux tout connaître sur le bout du doigt. Il est temps que sans détour, je m'exerce à mon tour. Je voudrais en savoir davantage. Je voudrais apprendre l'amour.
Retour en direct avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes, avec celle qui reprend 85 ans plus tard, pour ne pas lui mettre la pression, le rôle de Barbara. Elle s'appelle Marion Tassou, vous allez voir, elle est tout à fait à la hauteur, franchement. Avec un titre qui s'appelle « Comme une enfant ». Barbara, son personnage, vient de tenter d'expliquer à son père qu'elle est amoureuse du télégraphiste. Évidemment, son père, milliardaire, est furieux et lui répond qu'il faudrait qu'elle arrête de se comporter comme une enfant, d'où cette chanson « Gentiment rebelle ».
Plus des enfants, l'on se ferait ses ailes, l'on se maquille, et cependant le plus souvent chacun nous traite en petite fille. Si lorsque les hommes parlent entre hommes, on dresse une oreille indiscrète, aussitôt l'un d'eux fait conversation s'arrête. Oh, les hommes nous regardent comme une femme, mais ils nous considèrent comme une enfant. Au lieu que l'on bavarde comme une femme, souvent l'on voit se taire. Nous rêvons de tout notre âme en ce beau jour triomphant. Nous étons devenus madame, on fera tout ce qu'on nous défend. Souvent on nous enlace comme une femme. Oui, mais on nous
Elle s'appelle Marion Tassou, c'était « Comme une enfant », extrait de Normandie, la comédie musicale, l'opérette de Paul Misraki, remontée par Christophe Mirambeau et l'Orchestre des Frivolités Parisiennes, qui sera en tournée en France à partir de la fin du mois de septembre.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Tellement heureux de vous retrouver en direct et en public du Carreau du Temple pour la reprise de nos concerts mensuels avec ceux qui font l'actualité de la comédie musicale en France. Alors maintenant, je vous propose de découvrir le troisième homme, le troisième amant. Betty est tombée amoureuse à Paris d'un liftier qui se présente plus simplement comme pilote d'ascenseur. Il travaille à l'hôtel Crillon, c'est quand même chic. Et lui aussi a le béguin pour la jeune fille. Alors du coup, il s'est embarqué de façon illégale sur le paquebot dans une caisse. Mais voilà, il est découvert et menacé de prison. Mais pour l'heure, une fois découvert, eh bien, il chante son amour de Betty, un titre intitulé « Elle est douce, elle est blonde ». Je vous propose de découvrir Guillaume Père dans le rôle, eh bien, de cet amoureux liftier et la troupe de Normandie.
Qu'est-ce que vous faisiez dans cette caisse?
Dans cette caisse, que faisait-il?
J'ai tout fait pour revoir celle que j'aime. À pardonner ce stratagème. Mais quand on aime, on est en droit de voyager dans n'importe quel endroit. Et bien que je me cache, et bien que je me taire, je me suis embarqué.
Pour New York?
Ah non.
Pour Citerre. Je n'ai rien fait de mal, dans le fond, mais c'est assez normal, dans le fond. Je ne pouvais pourtant pas traverser à la nage, je suis sentimental, dans le fond. Dans cette pauvre caisse où j'étais tapis, avait pas de tapis, ben ma foi tant pis. Comme je souffrais pour elle, je me sentais très fort, et sans faire d'effort, j'oubliais ton fort. Je n'ai rien fait de mal, dans le fond, j'avais un idéal, dans le fond. Laissez-moi terminer mon voyage, bien que je sois très mal dans le fond.
Nous voudrions savoir quelle est donc cette femme qui peut complètement mener votre destin, celle qui vous fera mettre en victoire de l'homme et vous fera venir passager clandestin.
Elle est douce, elle est blonde et je l'aime. Je ne suivrai jamais son chemin. Notre amour est plus beau qu'un poème. J'ai placé mon bonheur dans ses mains. Et depuis, dans ses yeux, j'ai pu lire le plus cher, le plus doux des aveux. Nuit et jour, j'ai le cœur en délire. Je la vois, je l'attends, je la veux. C'est pas que je m'emballe, oh non, mais je saisis la balle, oh bon. C'est sûr de pouvoir s'épancher quand on aime, et je l'aime pour de bon. Je l'adore, elle est douce, elle est blonde. Pour la voir, je courrais n'importe où. Jusqu'au bout du monde. Malgré vous, malgré moi, malgré tout, elle est douce,
c'est assez
blanc. Laissez-moi terminer mon voyage, bien que je sois très mal dans le fond.
Guillaume Père et la troupe de Normandie, elle est belle, elle est douce. Bonjour Christophe Misraki.
Bonjour Laurent.
Vous êtes le fils de Paul Misraki. Christophe Mirambeau vient de parler de vous il y a quelques instants. Double vie pour votre père. Hein. D'abord la chanson, l'orchestre de Réventura, avec des chansons qu'on fait renaître avec succès le grand orchestre Splendide dans les années 70. Tiens, 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 j'aime les bananes car il n'y a pas d'os dedans. Et puis bien sûr, tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis la musique de films après-guerre, 185 bandes originales à son actif, de Alphaville de Jean-Luc Godard à Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Roger Vadim, et vous avez parlé de cette opérette Normandie ?
Ah, j'avais un père qui était très discret sur sa carrière quand il parlait à ses enfants. Il avait qu'une envie, c'est qu'on ne le fasse pas, ce métier. Et donc, du coup, il nous en parlait très peu. Et il a fallu un peu fouiller pour retrouver des choses, parce qu'il écrivait beaucoup, il tapait à la machine beaucoup. Et donc, des choses sur Normandie, on en a dans ses mémoires inédites, notamment, par exemple, la critique de Reynaldo Hahn. On n'a pas parlé de Reynaldo Hahn tout à l'heure.
Pas encore,
Mirambeau, oui. Et Reynaldo Hahn qui a fait une critique très très positive de Normandie. Mais à la fin, le dernier petit mot, c'est ce serait tellement bien que Paul Misraki secoue le joug du jazz. Et ça, mon père l'a mal pris. Et alors du coup, après, il raconte les histoires suivantes en disant « Ah, monsieur Reynaldo Hahn, je vous ai bien eu !» Donc là, c'est le moment où, effectivement, c'est la première vraie opérette sur scène.
Alors, faut dire qu'il est autodidacte, c'est ça ? Si je comprends bien, c'est parce qu'il voulait s'inscrire à la SACEM qu'il a pris des cours d'harmonie et de contrepoint avec Charles Cochelin. Mais il a tout appris en étant vendeur de disques au Lido, dans un magasin de disques sur les Champs-Élysées.
Ah, c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il entendait les notes déjà quand il était enfant. Et sa mère, en cachette, parce que c'était pas bien dans la famille d'assureurs, sa mère, en cachette, lui donnait quelques cours de piano. Et il a composé, à 8 ans et demi, une valse, qui s'appelle La Jolie, et qu'on a mise sur scène au Déjazet il y a 2 ans. Et il entend la musique. Donc il a jamais compris comment ça se passait, mais il entendait les notes, et il était même capable d'orchestrer de tête. Donc il écrivait, dans un silence de cathédrale, les partitions de tout l'orchestre, en entendant ce que ça donnait.
Et une de ses premières œuvres, à 16 ans, c'est une opérette. Pourquoi il aimait l'opérette, Amandine, je crois
Ah, parce qu'il avait au moins la chance de pouvoir aller voir des opérettes. Et ça lui avait beaucoup plu. Christophe, tu les as cités tout à l'heure, Nono, Nanette, Showboat, etc. Il en parle comme vraiment fondateur dans ses choix. Et il a fait Armandine alors qu'il était au lycée. Ouais. Et dans Armandine, il y a une chanson que tout le monde a peut-être entendue, qui s'appelle « Fantastique », qui a servi de générique à Réventura et ses collégiens de 1931 à 1954, donc pendant 25 ans.
Oui, c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est qu'il se trouve que dans les années 30, il était dans les années 20, il était au collège avec Raymond Ventura qui avait créé les collégiens, et c'est comme ça qu'il va devenir pianiste et compositeur, notamment d'une chanson qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la Marquise », dont on va parler dans un instant, mais avant, Christophe Misraki.
Oui, c'est moi.
C'est vous. Je vous propose de continuer à découvrir cette partition méconnue de Normandie, avec un autre titre, c'est un duo. Alors, on revient un petit peu en arrière, c'est un flashback, chers auditeurs. Betty ne sait pas encore que le liftier qu'on vient d'entendre est sur le bateau, était dans une caisse. Et elle ne veut vraiment pas se marier avec le marquis que lui promet son père à New York. Alors, elle se confesse à un faux pasteur présent sur le bateau. Un titre intitulé, tout à fait mélodramatique, hein. Je veux me noyer, Julie Mosset et Betty, Guillaume Durand, le faux pasteur.
Je ne puis vivre plus longtemps loin de celui que j'aime tant. Oui, je l'aime et j'en meurs. Comme il n'est pas du meilleur monde, je veux partir à la seconde pour un monde meilleur. Oh, ne dites pas que c'est une folie.
Hélas, cessez, voyons, cessez, vous n'en serez pas plus avancé, réfléchissez.
Je veux me noyer.
Écoutez donc ce qu'on vous prêche, mourrez d'amour, mais pas d'eau fraîche, vous me glacez.
Je veux me noyer. Nul ne mettra de frein, ce n'est pas suprême. Je noierai mon chagrin en me noyant moi-même.
C'est insensé.
J'y suis d'ailleurs bien décidé, mon avenir est liquidé.
À quelle idée ?
Je veux me noyer.
Dieu a voulu vous éprouver, un de perdu, 10 de retrouvé, vous l'oublierez un jour.
À lui, je...
accidentelle. C'est un péché, mais il n'est pas mortel.
Je veux me noyer.
Laissez-moi donc vous chapitrer. Cette eau n'est même pas filtrée, je suis outré.
Je veux me noyer.
N'insistez pas, charmante miss, je vous sauverai in extremis, quoi que vous fassiez.
Je veux me noyer.
Bientôt tous vos ennuis vous sembleront bien moindres.
Mes espoirs sont dans l'eau, je veux les y rejoindre. J'ai le cœur broyé.
Vous n'auriez même pas d'épitaphe, dans l'eau vous seriez en carafe, réfléchissez.
Je vais me noyer, je vais me noyer, je vais me noyer, 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 je vais me noyer.
Je disais mélodramatique, mais en fait la noyade est plutôt comique. On se parlait dans un dessin animé, mais c'est très réussi. Merci beaucoup à Julie Mosset dans le rôle de Betty et Guillaume Durand dans le rôle du faux pasteur dans Normandie, cette production que vous pourrez découvrir, à commencer par Charleroi, à la fin du mois et en tournée également ensuite en France. Autre duo plus radieux, voilà, on retourne dans le sens normal de l'histoire, les retrouvailles entre Betty et celui qu'elle aime et qui est donc liftier à l'hôtel Crillon. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas que leur fille se marie à de pauvres prolétaires, les pères ont décidé de les enfermer, leur fille, dans les chambres sur le paquebot, mais le liftier réussit à rentrer dans la chambre de Betty et là, c'est quoi ? Est-ce que c'est la grande déclaration d'amour ? Je ne sais pas. À vous de voir. Julie Mosset, Guillaume Père.
Vous m'aimez, dites-vous, que sera-ce si pour vous je n'étais rien ?
Pardonnez une simple caresse qui aime bien, châtie bien. L'amour qui retentit, le sentez-vous?
Je l'ai senti. Pourquoi discourir lorsque l'on s'aime? Les mots n'ajoutent rien du tout. Les aveux semblent toujours les mêmes, qu'ils soient d'un autre.
On a tout dit, tout vu sur l'amour. Et l'on a beau rechercher, on ne trouve que des clichés.
On a tout dit de toutes les façons, depuis bien des filles et bien des garçons.
On écoute sans doute, mais on connaît la chanson. Chacun veut dire.
On a tout dit sur l'amour, mais il fallait quand même cette chanson pour mieux préciser les choses. Julie Mosset, Guillaume Durand, Christophe Misraki, Christophe Mirambeau. Il y a quand même une chanson qui est hyper célèbre, que tout le monde connaît, qui a été créée pour Normandie. Ça s'appelle « Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». Comment elle est née cette chanson? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que Paul Misraki avait composé « Tout va très bien, madame la marquise » qu'on lui a commandé en 1935 cette opérette et qu'il a commencé par écrire cette chanson en fait?
Alors en tout cas, c'est ce que lui affirme.
Christophe Misraki.
Lui dit « Henri de Coin est venu me chercher en tant que compositeur de « Tout va très bien, madame la marquise ». Et quand, quand le léger sentiment qu'il manque quelque chose à la fin du deuxième mouvement commence à se faire sentir, ce que Henri de Coin demande à mon père, c'est de faire quelque chose comme
«
Tout va très bien, madame la marquise ».
Henri de Coin qui est l'auteur du livret. Hein.
Absolument. Mmh. Je salue Didier de Coin et son épouse Chantal, qui écoutent l'émission d'ailleurs, et qui ont travaillé aussi avec moi en amont.
Alors Christophe Mirambeau, racontez-nous à quel moment il arrive à intégrer cette chanson alors que les chanteurs entrent sur scène, sous nos applaudissements encore, pour ce numéro que nous attendons tous. À quel moment ça intervient dans l'intrigue?
Dans l'intrigue, on a fait une fête. On a fait une fête où Betty a chanté une magnifique rumba, où tout le monde a dansé, tout le monde est fatigué. Et là, les milliardaires sont ruinés parce que le gag, la blague de Roland... et de ses amis pour leur faire croire qu'ils sont ruinés, a fonctionné. Ouais. Ils sont à terre, et Catherine, qui faisait tous ses espoirs avec ses milliardaires, leur dit « Vous êtes ruinés, ben, ça vaut mieux qu'attraper à la scarlatine ». Et là, tout le monde s'amuse avec ça.
Alors, par ordre d'entrée en scène, on va commencer par les deux premiers. Ça sera d'abord Sarah Lazerge dans le rôle de Catherine, et puis ensuite Ali Dounombre. Et puis tous les autres, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, extrait de Normandie, cette opérette de Paul Misraki. Oui, Christophe Misraki.
Saluer les lyrics d'André Ornez. Et là, sur cette chanson, c'est vraiment hallucinant.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement. Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Cela n'a pas d'importance, car si on réfléchit bien, ça vaut mieux qu'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que la vallée de la Morena. Ça vaut mieux que le sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le zouave pour l'alcool.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame « Ah, vous m'attrapez les seins !» Et je lui ai répondu « Madame, y a pas de quoi faire ce beau teint. »
Ça vaut mieux que l'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que la vallée de la Morena. Ça vaut mieux que le sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le zouave pour la barre.
Un soir chez une douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Son mari criait « Arrière, j'aimerais mieux qu'on me tue !» Et noblement la douairière lui dit
« De quoi te mêles-tu ?»
Ça vaut mieux que la campagne à la pire. Ça vaut mieux que la panne à la boulot. Ça vaut mieux que la sucer.
Un vieil ami d'Angoulême m'avait invité chez lui. Sa maison est du 15e, c'est vieux, mais c'est très gentil. Admirant ces jolies choses, je lui demande soudain où sont donc les valères choses. Il me dit chez le voisin.
Ça vaut mieux que la trappe et la scarlatine. Ça vaut mieux que la panne et la boulot. Ça vaut mieux que la sucée et la naphtaline. Ça vaut mieux que le soir au fond d'un pas.
Dans un hôtel de province, je pouvais pas dormir la nuit. Les cloisons étaient très minces, mes bras en faisaient du bruit. Soudain j'entendis arrête, arrête un peu Nicolas. Tu m'as mordu la luette.
Devait être guillotiné pour avoir ses tristes à dire.
violé un garçon boucher. Avant qu'on lui coupe la tête, le bourreau sans s'affoler lui offrit une cigarette et lui dit pour le consoler:
ça vaut mieux que de tromper la scalatine, ça vaut mieux que la panique d'Aurora, ça vaut mieux que si c'est la lentanine, ça vaut mieux qu'elle osera beaucoup la main.
Il y avait une dame qui, pour avoir un enfant, tous les jours à Notre-Dame allait implorer Saint-Jean. Un beau jour, elle devint mère de trois enfants d'un seul coup. Elle crie: Saint-Jean, t'exagères! Saint-Jean lui dit: oh, calmez-vous.
Ça s'écrit avec un C. J'y répondis tout d'une pièce: avec un Q, c'est plus gai.
Ça
merci aux frivolités parisiennes. Normandie à découvrir le 26 septembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, les 1 et 2 octobre à la Maison de la Culture d'Amiens, le 11 octobre au Théâtre Municipal du Havre et du 13 au 16 octobre au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Grand merci aux équipes techniques de Radio France qui ont permis cette émission en direct en public. David Sadoun, Jean-Louis Delonque, Tar Boukifa, Stéphane Touvenin, Jean-Benoît Tétu, Mathieu Tourin, Michel Gassic, Christophe Mirez, Titouange Ouais, Édouard Rose, Morgane Fougéry, Camille Lhermitte, Charles Serres, Léo Duroy, Élise Lejeune, Martine Moni, Fabien Flora. On vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
Rideau.
C'est l'été sur France Musique. Cabaret 42e rue, Laurent Vallière.
C'était une nouvelle diffusion de Cabaret 42e rue avec l'orchestre des frivolités parisiennes. Vous pouvez voir les vidéos de cette émission. C'est en ligne sur la page de la 42e rue sur francemusique.fr. Vous retrouverez cet été l'orchestre des frivolités parisiennes. Par exemple, le 30 juillet à Paris à la maison du 11e arrondissement ou le 12 septembre à la maison Cocteau à Milly-la-Forêt pour leur spectacle Un cocktail des Cocteau. Mais ils proposent également le spectacle Le Frivol's Club. Ça sera le 29 voûte à la maison des Métallos dans le 11e arrondissement. Il y aura également le festival des frivolités à l'orangerie du parc de Bagatelle. C'est dans le 16e à Paris, les 18 et 19 septembre. Enfin, Normandie sera de retour, cette opérette dont nous avons entendu beaucoup d'extraits aujourd'hui. Le 9 décembre au Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est Mosellan. Ainsi que le 8 et le 9 janvier 2022 au Trianon, à Paris. Enfin, les frivolités viennent d'éditer l'enregistrement d'une opérette méconnue de Marcel Lattès, Un diable à Paris, un album choisi par France Musique. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau concert 42e rue. Merci à Dofar Guéride, à Martine Moni et à Emmanuel Benito. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Musique. Dans un instant, direction le Festival de Bayreuth pour votre opéra du soir.
À réécouter sur francemusique.fr.